L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'AJT du local sur l'autre radio. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 janvier et Claire, évidemment, comme tous les jours, est avec nous. Bonjour Claire.
Et oui, bonjour Marie, bonjour tout le monde, en direct à Laval où il y a une éclaircie ce matin. Oui, oui, vous n'avez pas rêvé.
C'est assez incroyable parce qu'il fait gris toute la journée normalement, donc tu l'as immortalisé le moment, c'est ça ?
Oui, il fallait le dire.
Il fallait le dire, c'est important en tout cas. Peut-être que d'ailleurs ce soleil s'est éclairci, vous l'avez vu depuis votre balcon, balcon d'où vous pouvez voir aussi des spectacles. Et c'est ce que propose Jean-Luc Bansard, le directeur du théâtre du Tiroir, pour pallier la fermeture de son théâtre. Ils prennent soin des SDF poilus, on parle bien sûr des chats errants. L'association Les Restos du Chat sensibilise à leur stérilisation et s'occupe de leur trouver une nouvelle famille. L'interview d'Anne Pelletier, sa présidente, est à retrouver dans cette émission. Et Soizic nous parlera statistiques avec la différence entre corrélation et cause à effet. Ça paraît compliqué mais vous allez tout comprendre. Elle nous expliquera justement comment expliquer que deux faits véridiques n'ont pas toujours de lien entre eux.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 repartent à la hausse.
Après plusieurs semaines de plateau, en Mayenne, l'augmentation se fait forte, avec un taux d'incidence de 155,6 pour 100 000 habitants, qui monte même à 190,8 pour les plus de 65 ans. 7% des tests sont positifs, 104 personnes sont hospitalisées, dont 9 en réanimation. Aucun variant étranger n'a pour l'instant été détecté dans le département.
Depuis jeudi, près de 600 personnes vaccinées dans le département.
C'est le bilan de cette première semaine de vaccination délivrée hier par l'hôpital de Laval. Une deuxième livraison de 4875 doses de vaccins est parvenue cette semaine en Mayenne. De quoi couvrir les actuels besoins selon Dominique Morin, la présidente du collège médical du groupement hospitalier territorial de la Mayenne.
C'est pour notre département une quantité qui nous paraît importante. Et là, comme on était en phase de mise en route, on a pu faire jouer la solidarité régionale et notamment le département de Loire-Atlantique, beaucoup plus peuplé que le nôtre et qui avait eu un peu de retard à la livraison. Nous avons pu lui redistribuer 1000 doses et également, à leur demande, 1000 doses sur le CHU d'Angers pour les mêmes raisons. Donc là, les doses qu'on a utilisées ici sur Laval, on a dit qu'il y avait 393 professionnels. Dans les résidents, je pense qu'on était, puisque ça c'était le démarrage là, à 28, pour les EHPAD du centre hospitalier de Laval. Les pompiers qui donc sont aussi fournis par la même filière ont vacciné en autonomie 155 de leur personnel. Et ça démarre sur les autres sites, puisqu'il y a un centre qui s'ouvre sur le Haut-Anjou. La première cible, c'est à peu près 50 personnes par jour. Le centre hospitalier d'Ernée a également vacciné quelques résidents, quelques personnels. Et sur l'hôpital Cran-Renazé, le sud-ouest mayennais, là aussi, on commençait, je crois que c'était moins d'une dizaine, et puis ça va monter en charge progressivement.
Les personnes de plus de 75 ans vivant chez elles pourront, elles, commencer à se faire vacciner la semaine prochaine.
À Pontmain, les 150 ans de l'apparition de la Vierge se feront en petit comité.
Le diocèse de Laval recommande aux pèlerins de ne pas venir ce week-end à cause de la crise sanitaire, bien sûr. Aucun grand rassemblement n'est prévu pour éviter toute contamination. Seule l'église paroissiale et la basilique seront ouvertes au public, dans la limite de 45 personnes pour l'église et donc 328 pour la basilique.
Un documentaire tourné en Mayenne nominé pour les Césars.
Le long métrage Autonome de François Bégodeau est en lice pour le César du meilleur documentaire 2021. Tourné en Mayenne, il retrace des parcours atypiques comme ceux des sœurs du monastère orthodoxe de Fontaine-Daniel ou celui de Sylvain Barque et Laetitia Talon, maraîchers et éleveurs de moutons à Saint-Georges-Butte-Avant. François Bégodeau a déjà décroché le César de la meilleure adaptation pour son film Entre les murs en 2009.
À Paris, l'espace M déménage.
Le conseil départemental met à disposition des associations, entreprises et organismes publics de la Mayenne un local dans la capitale. Actuellement situé au 13e étage de la tour Montparnasse, l'espace M investira pendant le premier semestre 2021 de nouveaux locaux. Au 16e étage du Héron Building, situé au 66 avenue du Maine dans le 14e arrondissement, l'immeuble est à 100 mètres de la gare Montparnasse, desservi par 4 lignes de métro, 3 lignes de bus et tout près de parkings publics.
Quel nom pour le tiers-lieu de Saint-Denis-de-Gastine ?
De Saint-Denis-de-Gastine, à vous de choisir. Comment s'appellera ce tiers-lieu dont les travaux vont commencer début 2021 ? Les locaux comprendront des espaces de travail partagés ou privatifs, des espaces de détente et une salle de visioconférence. Trois propositions retenues pour le nom : lieu Dionys, la bagagerie ou la gare. Habitants de Saint-Denis-de-Gastine ou non d'ailleurs, vous pouvez voter à la mairie, dans les commerces de la commune ou sur le site internet de la ville.
Et sur la route du Vendée Globe, la place de leader très disputée.
Au dernier pointage à midi, c'est Charlie Dalin qui devance Yannick Bestaven à seulement 3000 d'écart. Il faut dire que les 9 premiers sont dans un mouchoir de poche, à 121 000 nautiques d'écart seulement. Et un petit peu plus loin, on retrouve à la 10e place Maxime Sorel sur son bateau VNB Mayenne.
Et Marie, les théâtres sont toujours fermés, mais Jean-Luc Bansard ne manque pas d'idées.
À défaut de pouvoir organiser des représentations en intérieur dans son théâtre, le directeur du théâtre du Tiroir à Laval a imaginé des spectacles dans la rue sur demande de tout un chacun. Leur nom, sous vos balcons, vos spectacles pandémiques.
Il y a deux idées derrière. La première, c'est parce que ça se passe en temps de pandémie, mais aussi les choses se répandent par la pandémie. Donc, on espère que nos spectacles vont se répandre comme le virus et qu'on ira jouer sous beaucoup de balcons, parce que nous avons appelé ça « Sous vos balcons, spectacle pandémique ». Voilà. Les spectateurs nous appellent, on réserve un créneau. Hier, c'était midi, à l'heure de l'apéritif, ou juste avant le repas. On est arrivé avec musiciens, chanteurs et nos valises sous les balcons des gens, sous les fenêtres. Les gens, entendant la musique, sont sortis et là, on a fait un spectacle de 20 minutes. J'aime à dire que la rue devient notre théâtre et le trottoir notre scène, puisque notre théâtre est fermé. Hier, on a fait 3 spectacles et les gens sont il y a une demande forte et les gens sont contents de chanter avec nous quand la chanson le permet, de reprendre des refrains, de répondre aux questions du conteur malicieux que j'aime être. On essaie de retrouver le grand plaisir qui est le partage de la poésie, quoi. La rue peut devenir un théâtre. Bon, moi, je ne suis pas un acteur de rue, mais j'aime jouer dans la rue parce que c'est vraiment là, on s'affronte vraiment. On retrouve les naissances du théâtre. C'est-à-dire, on dit que le premier acteur, il est monté sur un banc pour pouvoir parler plus fort et plus loin. Eh bien, ça s'appelait saltare in banca. C'est le saltimbanque, en fait. Et moi, j'ai l'impression de redevenir un saltimbanque. Et quand dans la rue, il y a un banc, là, je me précipite dessus pour dire mes poésies ou mes contes. C'est très agréable de retrouver cette forme du théâtre primitif. C'était tout à fait émouvant. Moi, j'étais même excité comme un enfant, j'avoue. J'ai retrouvé ce plaisir du contact, des yeux qui te regardent, des gens qui applaudissent. À tel point qu'on a oublié même de faire le chapeau à la fin, parce qu'on était tellement contents. C'est un peu dans la colère, un petit peu, que j'ai créé ça, en disant « mais c'est pas possible que les gens aient le droit d'aller prier et qu'ils ne puissent pas rêver avec de la poésie ». Et voilà, donc j'ai trouvé une forme pour ouvrir le théâtre à des scolaires. On a obtenu la permission d'accueillir des classes dans notre théâtre. C'est un décret qui a été modifié en décembre, qui permet aux artistes de continuer le travail pédagogique qu'on mène dans les écoles. On peut aussi le mener dans la même manière dans l'enceinte du théâtre. Donc ça nous permet de faire des répétitions, voire des représentations. Fin janvier, là, on va pouvoir présenter La Reine des Neiges à une dizaine de classes qui attendent depuis décembre de pouvoir. Et là, avec une lettre du préfet, nous pouvons maintenant accueillir des classes dans notre théâtre.
Mais attention, l'exception n'est valable que pour les scolaires dans un cadre pédagogique. L'ouverture au grand public se fait-elle encore attendre ? On va parler d'ici quelques minutes de l'association Les Restos du Chat qui vient en aide justement aux chats errants et participe, en tout cas contribue à leur stérilisation, à la sensibilisation à la stérilisation. On en parle donc d'ici 3 minutes, le temps d'écouter Soumti avec Stand My Sister. Très belle chanson de Soumti, Stand My Sister, sur l'autre radio. Vous écoutez l'agité du local. Et depuis 12 ans, ils prennent soin des chats errants à Laval et ailleurs. L'association Les Restos du Chat regroupe 250 adhérents environ. Ils sensibilisent à la stérilisation de ces chats et œuvrent pour leur adoption dans une nouvelle famille. Anne Pelletier, la présidente des Restos du Chat, se souvient de la création de l'association. C'était en 2008.
En promenant mon petit chien, hein, que je n'ai plus, malheureusement plus maintenant, j'ai rencontré une maman avec ses 3 chatons et la personne à qui appartenait cette maman et ses chatons avait déménagé puis avait gentiment laissé tous ces petits loups-là complètement paumés puis seuls, quoi. Donc je me suis mise à les nourrir, hein, c'était au mois d'août 2007, ça. Et puis, c'était l'année d'après est arrivée, il y a eu les vacances, donc je ne voulais pas partir, parce que, étant donné que depuis un an, je les nourrissais, j'estimais à m'être engagée vis-à-vis d'eux, et je voulais pas les laisser sans manger. Et c'est là où j'ai rencontré une dame, Madame Sutra, qui malheureusement est décédée, qui, elle, s'occupait depuis, oh là là, un nombre d'années considérables, des chats du centre-ville de Laval, tout en sachant que la ville de Laval paraît à la stérilisation des chats depuis bien longtemps avant que l'association ne soit créée, quoi. Donc Madame Sutra a pris mon relais pendant mes vacances et à mon retour, c'était elle qui m'a demandé, elle m'a dit « je rêve de créer une association ». J'ai dit « ok ». Voilà, et c'est en regardant un soir les enfoirés, et j'ai dit « les Restos du Cœur, pourquoi pas les Restos du Chat ».
D'où et le voilà. Clin d'œil, voilà, avec le nom de l'association.
Et plus est, ouais, quand on voit un reportage de Coluche de la fenêtre de sa cuisine qui nourrissait les chats sur les toits de Paris, ça faisait, on se disait, bon, de là-haut, il ne va pas nous en vouloir si on prend le début de l'appellation de son association, quoi.
Effectivement, c'est d'autant plus logique. Donc du coup, quelle est l'action de l'association, puisque vous intervenez en complément justement de la mairie qui s'occupe de la stérilisation des chats errants?
Ben, c'est-à-dire que nous, on travaille entre guillemets en parallèle avec la mairie, hein, parce que bon, il y a du piégeage à faire. Donc il y a la fourrière qui s'en occupe bien sûr, mais il y a des fois où c'est sur des sites et il faut y aller tard le soir parce que c'est comme on dit, hein, c'est la nuit, tous les chats sont gris. Donc il faut poser des pièges, des cache-trappes et bah, rester gentiment dans sa voiture, faire le pied de grue pendant des heures parfois, jusqu'à ce qu'un ou une chat entre dans le piège. Et voilà, donc après moi je le récupère et on le dirige vers une clinique vétérinaire partenaire de Laval pour leur test, le cause d'abord, hein. Ils sont testés pour le sida du chat. Entendons-nous bien, sida du chat, hein. Les humains et les chiens ne risquent rien parce que il y a de la phobie des fois là-dessus. Et fonction du résultat, s'ils sont positifs, malheureusement, ils sont endormis définitivement. Et s'ils sont négatifs, ils sont stérilisés et on leur met un M dans l'oreille. Ça veut dire mairie. Voilà.
Et donc après, ils sont relâchés, ces chats-là ?
Donc la loi stipule que oui, les chats doivent être relâchés sur leur lieu d'errance, tout en sachant que la plupart du temps, c'est là où il y a des endroits où ils sont nourris, en fait. Hein, parce que on a des petits chalets dans la ville de Laval, on a cinq gros points de nourrissage, tout en sachant qu'il y a bien d'autres endroits où il y a des petits abris qui sont mis dans les fourrés, parce qu'en fait, on nourrit non loin de 200 chats tous les soirs, et du 1er janvier au 31 décembre. Donc les chats sont relâchés. Par contre, quand on tombe sur des chats qui sont très sociables, donc en général des chats abandonnés, et ça devient le principal maintenant. Il y a plus beaucoup de chats errants sauvages, il y a beaucoup de chats abandonnés qui sont là parce que ben les gens ont déménagé ou la chatte a fait des chatons, donc on balance les petits. Le scénario chaton sac poubelle et chaton bois de l'huisserie, on a eu, hein, cette année, et comme tous les ans d'ailleurs. Et puis on a quelques familles d'accueil dans lesquelles nos chats attendent leur famille définitive. Hein. On met leurs photos avec leurs prénoms, leurs petits caractères, et on met ça sur notre page, enfin sur le mur Facebook, notre page Facebook, sur notre site internet et sur Seconde Chance, qui est un site national d'adoption. L'année passée, on a quand même eu 22 sauvetages et 200 adoptions. Hein, des adoptions qui sont faites avec un contrat, puisque c'est nous qui gérons la stérilisation et l'identification de l'animal adopté.
Ça, c'est aussi un avantage, j'imagine, pour les futurs propriétaires?
Ben, disons que non, parce qu'ils règlent. Hein, et c'est un contrat d'adoption de 85 euros. Ils nous donnent 85 euros, mais c'est nous qui, en contrepartie, avons géré ou gérerons, si c'est des chatons, la stérilisation et l'identification.
Et donc, c'est 200 chats adoptés. Moi, ça me paraît beaucoup. Est-ce que c'est plus que les années précédentes?
Non, c'est pas assez. Oui, c'est énorme et peu à la fois. Parce que quand on pense au nombre de chats en France qui sont à l'abandon ou qui sont errants et malheureux, c'est pas grand-chose. Mais si, c'est énorme comparé à l'an passé. Parce que l'an passé, je crois qu'on était à 160, voire 170 grand maximum. Mais là, cette année, oui, 200. Et on a beaucoup de chats qui sont partis sur Paris, la région parisienne. La Rochelle, hein, je vais le dire maintenant, j'ai même un gendarme pendant le confinement qui est venu adopter un chat quand même. Il est venu de La Rochelle. Donc voilà, les gens viennent vers nous et puis moi je les dirige vers la famille d'accueil ou le chat, puis après ils voient, ça ne les engage à rien d'aller voir l'animal et puis ben, ça passe ou voilà, des fois ils vont pour un chat et ils repartent avec un autre, ce qui arrive parfois.
Là, actuellement, vous recherchez encore
des familles d'accueil? Bah oui, on en a toujours besoin, parce que tous les jours, moi, j'ai des coups de fil. Vous auriez vu la journée d'hier, c'était je raccrochais le portable, je le fixe, sonnait. Tous les jours, on a des demandes, des appels au secours pour des chats qui sont errants, non stérilisés. Alors évidemment, quand il y a un mâle et une femelle, ça passe pas au travers de la trappe. Il faut quand même savoir qu'un mâle et une femelle non stérilisés, au bout de 4 ans, on dépasse 20 000 chats. Hein. Et quand je dis 20 000, c'est bien 20 000. C'est pas 2 000, 20 000. Au bout de 4 ans. Donc vous imaginez bien que des gens qui vont avoir un mâle et une femelle non stérilisés, ils se retrouvent avec une portée de 5. Et dans la portée de 5, il y a une petite chatte. Si elle naît au mois de mars, dans l'année dans la même année, elle-même, cette petite chatte, aura des bébés. Donc ça va très, très, très vite.
D'où l'importance de la stérilisation,
pour moi,
j'imagine.
La stérilisation, oui, c'est hyper important. Parce que, en fait, quand on voit des phénomènes de gens qui mettent des chatons dans les sacs poubelles et dans les conteneurs ou qui les balancent dans les, en bois de l'huisserie, comme on a eu le cas l'année dernière, heureusement qu'il y avait une personne qui a vu le coup se faire, on se dit que de balancer les chatons, c'est une fête, c'est un fait. Moi, je trouve pas de qualificatif dans la langue française parce que c'est affreux. Mais il n'empêche qu'il y a une maman, chat, qui n'est pas stérilisée, ça veut dire que ça recommencera.
Donc oui, c'est bien pour éviter ce genre de situation.
Voilà,
la stérilisation,
on voudrait que les gens arrivent à comprendre que, à la base, on prend un animal, on sait que c'est 15 ans de sa vie, en moyenne. Donc il va falloir l'assumer. Si on n'a pas envie d'en prendre ou si on ne se sent pas capable, on n'en prend pas. Il n'y a pas de loi qui est obligée à adopter. Mais quand on adopte, on va jusqu'au bout. Et la stérilisation, c'est quelque chose d'hyper important. Il n'y a pas besoin de dire il faut qu'elle fasse une première portée. Non, ça, même les vétérinaires vous diront que c'est de la bêtise. Les chattes, elles sont entre 5 et 6 mois, on les stérilise. Et ce n'est pas ça qui va les empêcher de vivre. Hein. Moi, j'en ai une, elle est morte, elle avait 20 ans. Elle n'a jamais eu de bébé de sa vie, elle s'en est pas plus mal portée. Mais c'est que les gens se responsabilisent. Alors évidemment, le problème, c'est toujours, ils vont vous dire, ça coûte cher. Ben, ça coûte cher, oui, mais si vous fumez, si vous avez un écran plat d'1,20 m, vous avez quand même les moyens de pouvoir faire stériliser votre animal. Hein. Il y a quand même des vétérinaires qui sont très conciliants. Donc voilà, stériliser. Ça, c'est l'importance. C'est hyper important. Mais les gens ne se rendent pas compte. Et puis, de toute façon, il y a des gens qui, honnêtement, faut dire les choses, qui s'en foutent complètement. Et c'est pour ça qu'au départ, on disait qu'on luttait contre la stérilisation. Mais moi, maintenant, je le crie haut et fort et je m'en cache pas. Nous luttons contre la connerie humaine. Parce que c'est une grosse... celle-là, elle n'est pas près d'être en voie d'extinction, je peux vous l'assurer. L'animal est malade, il y a un vétérinaire. Votre enfant est malade, vous l'emmenez chez le médecin. Il faut vous dire que voilà, c'est un engagement quand vous adoptez. Donc, vous adoptez et vous vous engagez jusqu'à pour toute la vie du chat. Et pour tous ses besoins, ou alors dans ces cas-là, vous n'en prenez pas. Les adoptions, si on en a eu beaucoup cette année, je pense que le confinement a contribué fortement à la chose. Il faut dire que les gens étaient seuls, chez eux, étaient présents. Donc s'ils avaient envisagé d'adopter un chat dans les mois ou les, à venir, ils ont anticipé, quoi. Mais bon, il faut dire que les gens qui viennent vers nous pour adopter, ils viennent vers une association qui s'occupe des chats de la rue. Il y a un contrat d'adoption de 85 €. Bon, ils vont pas s'amuser à venir adopter des chats pour les mettre dehors après ou en faire du pâté. Hein. Je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi il y a eu plus d'adoptions cette année. Il y a peut-être plus de gens motivés aussi, je sais pas, je peux pas vous dire.
En tout cas, pour l'association, on voit que il faut... quand même des fonds, j'imagine, que ce soit pour nourrir les chats, pour s'occuper de la stérilisation, pour aussi faire les pièges. Comment est-ce que justement vous financez les actions de l'association ?
Alors au départ, il y a les adhésions, il y a également les dons. Il y a des gens qui font des dons parce qu'il faut savoir qu'on est reconnu d'intérêt général, donc on est habilité à délivrer des reçus fiscaux. Donc il y a beaucoup de gens, quand ils font un don... par exemple, un don de 50 €, ils savent qu'il y a 66% qui est déductible de leurs impôts. Donc, obligatoirement, au lieu de donner 20 € les années passées, maintenant, ils donnent beaucoup plus parce que, voilà, c'est déductible des impôts. Et puis, on a à la base le marché de Noël, qui n'a pas eu lieu cette année, hein, où tout ce qui est fabriqué est vendu pour les chats, c'est-à-dire qu'il y a les frais vétérinaires. Il y a l'alimentation, mais il y a des frais vétérinaires aussi, hein. Cette année, on a eu plus de 10 000 € de frais vétérinaires, aisément. L'an passé, on avait 12 000.
Donc justement, comment on fait si on veut vous contacter, alors que ce soit pour donner ou bien pour adopter ou devenir famille d'accueil ?
Déjà, soit les gens vont sur Internet, hein, en tapant pour le site Internet, c'est lesrestosduchat.org. Et puis autrement, ils peuvent appeler là au numéro 02 43 53 24 94. Tout en sachant, il faut le dire aussi, qu'on n'a malheureusement pas la capacité de sauver tous les chats de la Terre. Donc des fois on est appelé et on a les bras ballants parce qu'on peut pas, on peut pas agir, on peut rien faire. On peut pas être là, on peut pas parer à la stérilisation, nous l'association, de tous les chats. Hein, il y a des stérilisations qu'on peut prendre en charge, mais pas toutes. Il est vrai que sans ça, il y a longtemps qu'on aurait mis la clé sous la porte. Donc il faut également motiver, ça c'est très important. Motiver les mairies, hein, pour que le maire sache que c'est un devoir pour lui de parer à la stérilisation des chats errants de son village ou de sa ville. Comme la ville de Laval, Parnay-sur-Roc, enfin on en a plein maintenant. Et on a beaucoup de mairies qui avaient prévu des campagnes de déchatisation qu'on a pu transformer en campagnes de stérilisation.
Vous intervenez sur quel territoire exactement? Parce que j'imagine toute la Mayenne, ce serait compliqué, mais...
Ah oui, on a des gens de la, on a des gens d'un peu partout qui nous appellent, hein. Nous, on a des fois des gens qui nous appellent justement au secours pour des cas dans leur village de Chahéran. Et c'est vrai que c'est Jeff, dans ces cas-là, qui prend les choses en main et qui s'adresse directement au maire. Donc, mais en Mayenne, oui, on intervient. C'est en fonction un peu de la situation de l'animal et de ce qui peut être fait. Bon, c'est vrai qu'on travaille avec une douzaine de vétérinaires. Donc, on peut diriger les gens vers un vétérinaire, mais on peut pas non plus prendre tous les frais à notre charge. C'est pas possible. Donc, parfois, il faut que le village ou la ville fasse quelque chose. Ou voilà. S'il y avait une loi qui pouvait passer et qui oblige tous les maires à faire la stérilisation des chats errants, ben, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, quoi.
C'est un message qui passe mieux aujourd'hui, où on parle plus de bien-être animal, ou vous n'avez pas forcément observé de différence?
Non, je trouve pas, parce que tous les ans, je me dis, bon, j'espère que cette année, il y aura moins de stérilisation à faire, et puis tous les ans, c'est toujours pareil, voire des fois plus, et on se dit, mais on en verra jamais le bout, quoi, ça n'arrêtera jamais.
Et si vous-même, vous souhaitez adopter un petit chat ou soutenir l'association, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site lesrestosduchat.org ou à les contacter par téléphone au 02 43 53 24 94. On fait une petite pause en musique avec Gaspard Royan et son morceau 7e Club.
Last night I must say, one of the strangest dreams I've dreamt. A man was standing there, dressed up like the famous Stagger Lee. He said, me and my friends were watching you since you claimed to be the chosen one. Now is the time you're ready for the ride, or you go back to your door. But if you turn seven heaven, if you're too nasty for seventh hell, come and follow me, I know where you can be. Welcome to the 7-inch club. Welcome to the 7-inch club. Welcome to the 7-inch club. And seven in a corner, they raised the glass to seven samurai, then they raised a dirty dozen more. And I said, who's that guy in the shadow? They said, me talk the love president. His name is Jack the Ripper, you know, for a 7-inch blade. And if you turn down seven, nasty for seventh hell, come and follow me, I know where you can be. Welcome to the 7-inch club. Welcome to the 7-inch club. Welcome to the 7-inch club. 7-inch club. Seven seals, but if you set yourself on fire, every time a turntable spins, if you like to hear the scrub when the needle hits her, welcome to the 7-inch club. Welcome to the 7-inch club. Welcome to the 7-inch club.
vous l'avez entendu, c'est non pas 7e club, hein, mais plutôt à l'anglaise 7th Club de Gaspard Royan que vous venez d'entendre sur l'autre radio. Vous êtes toujours dans la JT du local et puis on retrouve Swazik aujourd'hui qui, comme tous les mercredis, s'intéresse à un sujet économique, sociologique, lié à l'actualité. Vous allez l'entendre aujourd'hui, on parle statistique. Bonjour Swazik, alors aujourd'hui dans votre chronique Un autre écho de l'écho, on part sur un constat possible, les femmes politiques seraient plus compétentes que les hommes.
Et oui, parce que savez-vous Marie que les pays où la Covid-19 a fait le moins de ravages sont les pays gouvernés par des femmes. C'est en tout cas ce que nous apprend le magazine américain Forbes il y a quelques jours. Mais dans la même veine, savez-vous également que c'est dans les pays où l'on mange le plus de chocolat qu'il y a de plus de prix Nobel. Alors là, je pense, Marie, que vous allez dire de ma première assertion qu'elle ne vous étonne pas, mais que la deuxième vous paraît quand même un poil saugrenue et surtout que vous ne voyez pas le rapport entre les deux. Eh bien pourtant, les deux sont bel et bien statistiquement vrais, mais en même temps complètement fausses.
Mais alors, Swazik, que se passe-t-il ?
Eh bien, il se passe que dans ces deux cas, il y a confusion entre corrélation et causalité. Alors ça, c'est une notion qu'on utilise souvent en économie, je vous explique. Une corrélation, c'est une observation empirique brute de deux données qui varient ensemble. Par exemple, il est tout à fait exact que dans les pays qui ont le plus de prix Nobel, eh bien, ce sont également ceux où l'on mange le plus de chocolat. Et il est vrai aussi que les pays qui ont le mieux géré la crise de la Covid-19 ont à leur barre des femmes. Le problème, c'est qu'en revanche, il n'y a pas de causalité. C'est-à-dire que lorsque je cherche les explications rationnelles qui font que le chocolat influence le nombre de prix Nobel, ou au contraire que le nombre de prix Nobel agit sur la quantité de chocolat ingéré, eh bien je ne trouve effectivement aucun argument. Ce n'est qu'un hasard statistique. Et des hasards statistiques, il y en a beaucoup. Alors, quant à la gestion de la crise sanitaire, l'explication tient surtout au fait que près de la moitié des pays cités par Forbes appartient en fait à l'Europe du Nord. Et on sait bien que dans ces pays, la parité, la transparence et le pragmatisme sont ancrés depuis longtemps dans la tradition politique. Alors, d'ailleurs, d'où une gestion différente de la crise qui ne se retrouve d'ailleurs pas dans la seconde vague. Mais bon, distinguer corrélation et causalité est donc vraiment fondamental pour éviter de faire dire tout et n'importe quoi aux statistiques.
Et donc les économistes utilisent souvent cet outil.
Oh que oui, car il faut bien interpréter les données quand elles se croisent ou quand elles évoluent ensemble. Et d'ailleurs, cela occasionne pas mal de bagarres entre eux, ou à tout le moins des divergences. Et on va voir que les conséquences politiques ne doivent pas en être sous-estimées. Par exemple, il existe une corrélation nette entre la consommation et le taux de croissance économique. Plus on consomme, plus il y a de la croissance. Alors, si je suis néolibéral, je vais dire que plus il y a de croissance, et plus cela nous permet de consommer. C'est parce que les entreprises tournent à fond que cela génère des revenus, ce qui permet d'augmenter la consommation. Et donc, en cas de crise, je vais pratiquer une politique de l'offre en faveur des entreprises, comme le CICE par exemple. Mais si je suis, disons, et pour faire vite, hein, c'est caricatural, mais bon, de gauche, j'ai une toute autre explication de cette corrélation. Je dirais que plus nous consommons, plus cela permet aux entreprises de produire. Je pars du principe que ce sont les revenus qui permettent la consommation, qui elle-même décide du niveau de production des entreprises. Ce qui fait qu'en cas de crise, je vais mener une politique économique keynésienne, dite de la demande. Je vais favoriser les revenus des ménages, de vous, de moi, surtout des plus pauvres d'ailleurs, en donnant un coup de pouce au SMIC, ou en augmentant les diverses prestations sociales, ou encore en soutenant l'emploi des jeunes. Alors bien sûr, hein, les statisticiens ont développé des outils qui permettent d'affiner la causalité. Là, je vous donnais un exemple pédagogique simple. Mais néanmoins, on ne peut pas nier la subtilité du maniement des statistiques. Et c'est bien d'ailleurs parce qu'il permet diverses interprétations que cet outil est utilisé par les conspirationnistes dans un tout autre domaine. Et par exemple, Marie, si je voulais vous faire peur, je vous dirais de vous méfier des lits dans lesquels on fait dodo, encore plus que du vaccin anti-Covid, car statistiquement, le lit est l'endroit où l'on meurt le plus dans le monde.
Merci Swazik, en tout cas on voit bien à quel point ce raisonnement peut être absurde et donc bien la différence entre causalité et corrélation. Merci beaucoup donc Swazik et on vous retrouve demain pour une nouvelle chronique, cette fois-ci des objets pour un monde. On termine cette émission avec notre rubrique initiative présentée par Claire. La région est à la recherche de ses prodiges de la République.
Et oui, le ministère de l'Intérieur organise une opération visant à récompenser celles et ceux qui ont accompli des actes de solidarité, ceux qui ont donné leur temps aux autres pendant cette crise sanitaire. On retrouve de nombreux exemples sur le site du gouvernement, comme ceux qui ont confectionné des masques, ce jeune qui est venu donner de son temps à l'hôpital, cette étudiante qui a donné envie à sa promo d'aller voter, et ces étudiants qui tiennent une épicerie solidaire, etc. C'est une occasion inédite de mettre à l'honneur l'initiative d'une personne anonyme de moins de 30 ans. Vous reconnaissez sûrement quelqu'un, vous n'aurez du coup qu'à vous rendre sur le site du gouvernement, gouvernement.fr, et taper Prodige de la République dans la barre de recherche.
Et puis Claire, à Saint-Pierre-sur-Orthe, une vente pas comme les autres.
Et oui, c'est la vente des poules réformées organisée par l'association Les Cacteuses. Ces poules rousses ont 18 mois, elles ont vécu en plein air, elles ont bien pondu et ne sont maintenant plus rentables pour l'éleveur. Ce samedi 16 janvier, retrouvez donc ces poules qui, si elles ne sont pas vendues, vont devoir être amenées à l'abattoir. Donc les acheter, c'est leur donner une deuxième vie, mais aussi vous donner des œufs, parce qu'elles pondent 5 œufs par semaine. Les poules sont à 2 euros chacune et 20 euros les 10 avec une offerte. La réservation est obligatoire et se fait via SMS au 06 58 55 11 92.
Merci beaucoup Claire. Et puis on rappelle aussi que les poules, c'est utile par exemple pour... Alors, ça ne fait pas office de composteur, mais vous pouvez leur donner vos petits déchets alimentaires et autres. Enfin bon, je ne vais pas faire les mille et un bienfaits de la poule, mais vous l'avez compris. Ça peut être très utile, surtout si vous avez voilà, de la place, un jardin, etc., etc. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, nom du compte L'Autre Radio, et laisser vos initiatives sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. On en parlera bien sûr ici dans cette émission. C'est déjà la fin de l'AJT du local. Merci beaucoup Claire.
Merci Marie, merci tout le monde et à demain.
On te retrouve évidemment demain, mais avant à l'antenne à suivre à 19h, ce sera Novorama, à 21h, The Town's Jazz Hour. Et nous, donc vous l'avez compris, on se retrouve demain à 12h15 avec Claire. Bonne fin de journée à tous.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.